Alexandra Planinich.
Un homme d'une soixantaine d'années qui était en vacances en Iran. Voilà le profil de l'homme qui est mort en prison en Iran, a indiqué hier le département des affaires étrangères. Ce ressortissant suisse se serait suicidé dans sa cellule dans une prison donc à l'est du pays. Incarcéré pour espionnage nucléaire selon les accusations de la justice iranienne. Mais beaucoup d'éléments restent encore flous. La Suisse exige du gouvernement iranien qu'il lui transmette aujourd'hui des informations détaillées sur les raisons de cette arrestation et sur les circonstances du décès. Les explications du porte-parole du DFAE, Nicolas Bidot.
On ne sait pas beaucoup de choses sur ce tragique événement. Nous, on a été informés. Donc, l'ambassade a été informée il y a un mois que notre ressortissant avait été arrêté pour des questions d'espionnage. On nous explique qu'il aurait pris des photos d'un site sensible. On a immédiatement voulu en savoir plus sur les conditions de l'arrestation, aussi pouvoir visiter notre ressortissant en prison de manière à pouvoir l'assister. Ça nous a été refusé, donc violation crasse des conventions de Vienne qui nous donnent ces droits. On a aussi évidemment demandé les résultats de l'enquête qui ont permis aux Iraniens d'arriver à la constatation d'un suicide. Alors on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. En tout cas, c'est un ressortissant de 60 ans qui était pour des raisons de tourisme, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, enfin ces derniers temps en Iran.
Des propos recueillis par Gabriella Cabré. Les critiques se multiplient au quatrième jour d'affilée des incendies qui font rage à Los Angeles. De nombreuses voix s'élèvent concernant notamment l'efficacité des secours alors que les autorités se renvoient la balle en matière de responsabilité. Hier, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a demandé un examen indépendant complet des services de distribution d'eau de la ville. Il a qualifié de profondément perturbant le manque d'approvisionnement en eau et la perte de pression aux bouches d'incendie. De son côté, la responsable des pompiers de Los Angeles s'est alarmée d'un manque de personnel, de ressources et de fonds. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans les feux et plus de 10 000 bâtiments ont été détruits à Los Angeles et plus de 14 000 hectares sont partis en fumée. Et alors que la Californie brûle, les États de Géorgie, du Texas ou encore de la Caroline du Nord aux États-Unis notamment sont touchés par des intempéries. Des tempêtes hivernales s'abattent sur le sud des États-Unis, provoquant hier l'annulation de plus de 3 000 vols et retardant des milliers d'autres d'après les compagnies aériennes et le site FlightAware. Le Salon mondial de l'innovation, le CES de Las Vegas, a pris fin hier soir. Le stand de la Swiss Tech n'a pas désempli durant les 5 jours. La promotion économique suisse présentait une trentaine de start-up sur la scène internationale. Lors du bilan, pour l'une d'elles, Biki, qui propose des classes d'école virtuelles et transportables sans connexion à Internet. Jacques Beug, directeur des opérations.
Alors c'est mon premier et en 4 mots je dirais super bien et super occupé entre guillemets. Savoir qu'il y avait tout le temps du monde, on est 3 sur le stand, les moments où on était les 3 à ne pas parler avec des gens ont été extrêmement rares. Alors ici il y a énormément d'Américains, donc c'est surtout des Américains avec lesquels on a parlé, il y a aussi d'autres pays, asiatiques surtout. Quelques-uns donc étaient intéressés. Il y a aussi des Suisses qui passent nous voir, bien sûr, des Français, des Anglais aussi, mais je dirais c'est surtout les Américains. On revient à Genève, surtout avec énormément de travail, de follow-up, de suivi. En fait, on va devoir faire le suivi de plusieurs centaines de nouveaux contacts. Voilà, c'est vraiment ça qui revient avec nous à Genève.
Jacques Beug au micro de Pascal Wassmer. Willy Maurer très critique vis-à-vis du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le rachat de Crédit Suisse par UBS. L'ancien conseiller fédéral déplore le fait qu'il soit le bouc émissaire et rejette ainsi les reproches qui lui sont faits dans cette affaire. Dans une interview accordée aux journaux de Tamedia ce matin, Willy Maurer estime que le mandat de la commission occulte la période décisive qui a précédé l'aggravation de la crise chez Crédit Suisse. Le Zurichois considère que la situation était extrêmement dangereuse depuis la crise du Covid. En France, un hôpital d'Annemasse a fermé ses urgences ce jeudi après l'agression de son personnel. Mercredi soir, 2 hommes, jugeant leur temps d'attente trop long, s'en sont violemment pris aux soignants de l'hôpital privé Pays de Savoie. Bilan, 7 employés de l'hôpital blessés avec des tuméfactions au visage, des côtes fêlées ou encore une fracture à la main. En réponse, l'établissement hospitalier a décidé de fermer ses portes jusqu'à lundi matin. Un choix que justifie Marie Chabin, directrice déléguée de l'hôpital.
Le lendemain matin, toute l'équipe a tenu à revenir à son poste de travail pour pouvoir continuer à prendre en charge les patients. Après, en faisant le point avec l'équipe, on a estimé, ils étaient d'accord qu'ils n'étaient pas en état de bien prendre en charge les patients, tellement ils étaient choqués physiquement. Une partie de l'équipe a aussi été mise en arrêt de travail par les médecins qui ont pu les ausculter suite à leurs blessures. Étant donné l'état de détresse psychologique de l'équipe, nous avons décidé de fermer les portes des urgences, de réorienter les patients vers d'autres établissements de santé du territoire, le temps de pouvoir un peu soigner ses blessures, aussi bien physiques que psychologiques pour l'équipe, avant de pouvoir rouvrir le service des urgences.
Des propos recueillis par Miguel Hernandez. Toutes les personnes présentes lors de cette agression ont déposé plainte auprès de la police. L'hôpital se portera aussi partie civile. Un mot de sport avec du hockey sur glace. En National League, Lausanne a signé hier soir une 8e victoire consécutive. Le leader s'est imposé à Lugano 3-1. Toujours au Tessin, Genève Servette a eu besoin de prolongation pour battre Ambrì Piotta 2-1. Ajoie a été battu 5-1 à Bernière. À noter que le Genevois Sakari Manninen a écopé de 5 matchs de suspension après son coup de canne un arbitre mercredi. Et du côté du ciel, encore quelques faibles chutes de neige ce matin le long des Préalpes en Bavalais, en plaine, passage à un temps ensoleillé aujourd'hui. En plaine, minimum 1 degré, maximum 2 sur le plateau, jusqu'à 5 du Léman à la vallée du Rhône.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
RTS vous souhaite une année 2025 extraordinaire. Restez avec RTS Espace 2 pour célébrer Strauss.
Du bon pied, Delphine Torrance.
Chers et tendres, bonjour. Nous sommes le 11 janvier, 11e jour de l'année, et journée mondiale du mot merci. Hein, quoi ? Quel mot ? Le mot merci, qui ponctue la gratitude, la reconnaissance, le respect du geste ou de la pensée, l'affection même, qui rend gré, voire grâce. Merci, dont l'origine dessert probablement le sens, merci est dérivé du mot latin merces, qui se traduirait par salaire. Ou est-ce le mot salaire qui a perdu son sens ?
Man is for the woman made, and the woman made for man. As the sword is for the jade, as the scabbard for the blade, as for digging is the spade, as for liquor is the can. So man, man, man is for the woman made, and the woman made for man. As the scepter to be swayed, as for knights the serenade, as for pudding is the pan, as to cool us is the fan. So man, man, man is for the woman made, and the woman made for man. Be she widow, wife or maid, be she rotten, be she stayed, be she wed or in a raid, poor or harried at the end. Man, man, man is for the woman made, and the woman made for man. Man, man, man is for the woman made, and the woman made for man.
Man is for woman made. Oui, alors les hommes sont faits pour les femmes. Pensez à ces psychologies du 17e. Magnifiquement chanté, on va l'excuser, par Paul Agnew, le ténor écossais qui était accompagné, entre autres à la guitare, par Elizabeth Kenny.
Thank you.
C'était un terzetto de Antonin Dvorak pour deux violons et un alto. Un terzetto, comme le porte bien son nom, c'est pour trois trucs. Alors généralement, c'est trois instruments ou trois voix. Là, en l'occurrence, nous avions trois instruments, donc deux violons et un alto. Les violons en question, c'était Chad Hoops et Kevin Zhu. Et l'alto, c'était Matthew Lipman, un enregistrement de 2022. Sergueï Prokofiev, joué par l'Orchestre Symphonique de la Saison Russe, pour cet extrait de sa suite pour orchestre Zimnikoskior, La neige tombe. Et d'ailleurs, la neige tombe. Ce matin, il est un tout petit peu blanc quand même.
Du bon pied, à la une, à la deux.
Et on va faire le tour de trois informations culturelles à ne pas manquer cette semaine et on va commencer déjà par aller au cinéma, hein, parce que Pedro Almodovar y est avec son dernier film La Chambre d'à côté. C'est son premier d'ailleurs qui ne tourne pas en espagnol mais en anglais puisqu'il y dirige les deux actrices Julianne Moore et Tilda Swinton. Et comme d'habitude, sa justesse d'analyse des comportements humains est transcendante dans cette adaptation du roman de Sigrid Núñez. C'est l'histoire d'Ingrid qui incarne par Julianne Moore, qui est une romancière à succès, qui cultive une peur panique de la mort, qui retrouve une ancienne amie, Martha, jouée par Tilda Swinton, qui est correspondante de guerre et qui est condamnée par un cancer. Martha demande à Ingrid de l'accompagner dans sa fin de vie, à l'écart du monde, dans une maison retirée. Chambre d'à côté traite de questions de l'euthanasie, de la relation à la mort, aux liens qu'elle génère entre les deux femmes. C'est bouleversant, c'est profondément généreux, c'est du génie pur de Pedro Almodovar au cinéma en ce moment. Et je vais faire un petit peu d'auto-promo parce que ce vendredi, enfin le vendredi prochain, là, le 17 janvier, c'est l'anniversaire de l'art et on fête ça sur RTS Espace 2 de 19h30 à 23h depuis l'espace parallèle à Saint-Maurice. Alors j'aurais pu mettre ça dans l'agenda mais bon quand même, c'est déjà de l'art dont on parle et puis il y a toute l'équipe de l'écho des Pavanes qui commentera la soirée en direct. D'ailleurs, si vous voulez participer, sachez que c'est gratuit mais que vous devez réserver, bien sûr, l'espace est restreint à l'espace parallèle parallèle, même s'il est parallèle. Alors, soit vous allez sur le portail avec vous du site de la RTS, soit vous allez directement sur le site d'Espace Parallèle pour vous inscrire et donc participer à cette soirée. Et pour vous convaincre de vous y rendre, on va jeter un œil ensemble sur le programme. Il y aura le Velvet Chords de la constellation Eustache avec les voix de Lee Madford, Solam Riondel, Marielle Dubuis et Jean-Pascal Coty. Il y aura un concert inédit du musicien électronique multi-usage Franco Mento, la musicienne Lise Barcas et sa cornemuse, et puis les Barrés de la Revuelta, c'est une fanfare principalement nourrie d'artistes sud-américains. Ce projet international est inspiré par l'Union Européenne de Radiodiffusion, qu'on appelle intimement UER, et le groupe Ars Acoustica, mais surtout à l'origine, ça a été instigé par l'artiste Robert Filliou, qui était affilié au mouvement Fluxus et qui avait instauré dans un de ses poèmes le 17 janvier 1963, millionième anniversaire de l'art. Et qui dit projet international de radiodiffusion dit beaucoup d'autres radios que la nôtre en connexion. Alors ça va être de la dinguerie, bien sûr, c'est vendredi prochain sur la radio du monde que vous choisirez, mais surtout, bien sûr, sur RTS Espace 2 dès 19h30. Une petite dernière, prochainement en tournée, pour nous rappeler que le folklore suisse, c'est pas si mal. L'ensemble suisse chéri passe forcément par chez vous. Alors rien qu'en février, ils seront entre Copet, Estavayer-le-Lac ou Aigle. Ce groupe d'origine genevoise reprend des chansons un peu poussiéreuses, hymnes à nos cantons. Roman surtout, parce que bon, chez les Suisses-Allemands, il y a les Höchstdritten, et nous font redécouvrir avec une touche de modernité ce fameux patrimoine. Formé de 8 musiciennes et musiciens, Suisse Chérie utilise beaucoup d'humour, joue des clichés helvétiques et va chercher des trucs dont on se souvenait pas vraiment pour en ressortir toute l'essence patriotique. Et tout ça parce qu'il y a quelques années, une soirée en EMS avait fini en karaoké géant. C'est frais, ça fait plaisir, ça marche auprès des anciens bien sûr, mais aussi auprès de ceux dont la curiosité dépasse la honte. Suisse Chérie était à la fête des vignerons en 2019 et part en tournée toute l'année 2025.
C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsque c'est notre envie. De permettre à nos cœurs d'entrouvrir la fenêtre au soleil qui pénètre et qui nous rend meilleurs. Aimons nos montagnes, notre Alpe de neige, aimons nos campagnes, que Dieu les protège. Et chantons en cœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. L'air des monts est si frais, tout là-haut sur l'alpage, que sans le faire exprès, l'on se met à l'ouvrage. Et c'est si doux de voir tant de bleu sur la plaine, qu'on se sent l'âme pleine de courage et d'espoir. Aimons nos montagnes, notre Alpe de neige, aimons nos campagnes, que Dieu les protège. Et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. Et ces choses qu'on voit, tant de vieux les ont vues, nos peines et nos joies, tant de vieux les ont eues. Le passé a formé notre amour pour les choses, les amours sont écloses, c'est si simple d'aimer. Aimons nos montagnes, notre Alpe de neige, aimons nos campagnes, que Dieu les protège. Et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons en chœur le pays roman. chantons en chœur le pays romain de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons en chœur le pays romain de tout notre cœur et tout simplement.
Une joyeuse interprétation du tout simplement de Jacques Dalcroze, bien sûr. Ça, c'est quand une impromptue de Chopin inspire le Corby, le John Corby Orchestra.
Thank you.
C'était le troisième mouvement d'un concerto pour hautbois et orchestre à cordes numéro 2 d'Albinoni. Donc un allegro qui est interprété ici par le Musica Alma d'Amsterdam et le hautboïste Han Dan Vries ou Han Samuel de Vries. Il avait un deuxième prénom qui n'est pas noté dans toutes ses partitions en enregistrement assez ancien de 1980. Cet extrait des Nuits d'été de Berlioz avec la voix de la soprano Véronique Jans, l'Orchestre National des Pays de Loire et John Axelrod à la direction pour cet extrait que vous venez d'entendre. J'ai une info pour vous, amateurs de littérature, parce qu'il y a, notre ami Karim Karkini qui va venir tout à l'heure avec le saltimbanquiniste. Une info qui pourrait peut-être vous intéresser parce qu'on recherche des jurys pour vous savez, le prix du public RTS. On offre chaque année un prix du public RTS, un roman. Si vous voulez, vous pouvez, vous, donc, parce que vous êtes le public, hein, auditeurice d'RTS Espace 2, vous pouvez participer à essayer et tenter d'être un de ces jurys. Pour ça, c'est assez simple. Vous pourrez aller vous inscrire dès maintenant sur le portail avec vous. Vous savez, vous allez sur le site rts.ch, il y a tout en bas de la page un portail qui s'appelle avec vous. Vous allez vous inscrire par ce biais-là pour participer éventuellement à ce jury du prix du public RTS pour l'édition 2025. Et vous serez peut-être allé savoir sélectionner. Dans ce cas-là, vous allez recevoir un nombre de bouquins à lire. On va vous occuper. Voilà, c'était un appel lancé à nos auditrices d'RTS Espace 2. On continue en musique et on retrouve un oboïste, tiens d'ailleurs, après les oboïstes néerlandais, Hans-Peter Westermann pour cet extrait de Essa Martini.
Thank you.
Giuseppe Sammartini de son vrai nom, concerto pour hautbois, cordes et basse continue. Nous venons d'entendre les deux premiers mouvements, le largo et l'allegro, par le Camerata de Köln avec donc Hans-Peter Westermann. On continue avec du romantisme et quel meilleur représentant du romantisme que peut être Brahms. Joyeuse interprétation de London Symphony Orchestra de cette sérénade numéro 2. Nous venons d'entendre le scherzo. C'était assez clair que c'était plutôt intense. Je ne cesse de le dire, mais je crois que je radote un peu. Mais vous le savez, j'ai une certaine affection pour le Forêt Quartet qui a tendance à un petit peu bousculer les codes. Ils aiment aller fouiller dans la pop, dans la musique autre que classique. Ce qui était à l'origine un entraînement d'avant-répétition est devenu maintenant un leitmotiv et ils arrivent de temps en temps comme ça avec des monstres de la musique pop. Et ici, on va entendre Between the Bars de Elliott Smith. Elliott Smith décédé trop jeune d'ailleurs. Between the Bars, c'est un immanquable. Et là, la version du Forêt Quartet est accompagnée d'un piano, Dirk Mommerz. Thank you. Vous pouvez le retrouver quelquefois dans les rues de Neuchâtel, lire à haute voix, hissé sur une chaise, et le samedi matin à 7h45 sur RTS Espace 2.
RTS Espace 2, Karine Karkeni,
le saltimbouquiniste.
À l'âge de 6 ans, comme tous les enfants du quartier à Marseille, je suis entré à l'école communale. J'avais très peur. Dès que j'ai franchi la porte de la classe, tous les élèves ont éclaté de rire. J'étais le seul à porter des lunettes. Ils m'ont appelé « quatre œils ». Le soir même, j'ai enterré mes lunettes et je n'en ai plus porté jusqu'à l'âge de 19 ans. Je suis devenu un rebelle, un solitaire. Je me méfiais des enfants. Ma mère fut la seule à s'apercevoir que je voyais très mal. J'ai passé mon enfance à rêver à la belle lumière qui inondait dehors les fenêtres, les chemins et les villes. Je n'allais presque pas à l'école, je marchais jusqu'au soir dans les collines et les rues de ma ville. C'est drôle comme on prend une petite voix pour s'adresser aux chats et aux enfants. Ma mère avait la même voix pour parler aux chats, aux enfants, à ses belles de nuit. Sa voix était toujours la même, douce, bienveillante, protectrice. Les arbres et les fleurs l'aimaient. Les enfants du quartier aussi qui détestaient les adultes. Le soir, elle me lisait quelques pages car ma vue était trop faible pour déchiffrer les caractères d'imprimerie. Elle ne changeait pas de voix. Elle lisait comme elle avait parlé à ses belles de nuit, à son lilas, à la voisine d'en dessous à qui personne ne parlait tellement elle était sournoise et laide. C'est dans notre cuisine, au-dessus des jardins, qu'elle m'a lu tout un hiver le conte de Monte Cristo. Dantès se leva, jeta naturellement les yeux sur le point où paraissait se diriger le bateau, et à 100 toises devant lui, il vit s'élever la roche noire et ardue sur laquelle monte, comme une superfétation du silex, le sombre château d'If. Cette forme étrange, cette prison autour de laquelle règne une si profonde terreur, cette forteresse qui fait vivre depuis 300 ans Marseille de ses lugubres traditions. Cette phrase souleva en moi une telle émotion que je ne vivais plus que pour ces quelques instants de lecture le soir où je retournais avec Edmond Dantès dans les sinistres cachots de cette forteresse. Je voyais tout, les escaliers taillés dans la pierre qui descendent sous la terre, le mince fil de jour qui filtrait à travers un étroit soupirail grillé. J'entendais le grincement des serrures. Oui, je me passionnais pour ce jeune marin innocent que l'on venait de jeter dans une tombe et qui allait y croupir durant 14 interminables années. J'aimais cet homme que personne n'appelait plus Edmond, mais le numéro 34. Durant la journée, seul dans les rues, je parlais à Edmond. Je le voyais sur le vieux port, puis dans sa forteresse. Il entendait gratter derrière son mur. C'était l'abbé Faria qui cherchait la lumière. Au fil des pages, je sentais enfler en moi une terrible révolte contre l'injustice et un désir tout aussi sauvage de vengeance. Et lorsque l'inspecteur des prisons dit avec la naïveté de la corruption... Et s'il eût été réellement riche, il ne serait pas en prison. Mon cœur d'enfant explosa. J'aurais tué sur le champ tous ceux qui l'avaient envoyé là. Ce petit extrait est tiré des Carnets de prison ou l'oubli des rivières de René Frény, paru dans la très importante collection Tracts Gallimard, ces petits formats que vous avez sans doute croisés déjà quelques fois, où des femmes et des hommes de lettres sont invités à parler de tout type de sujets d'actualité. Et puis là, René Frény raconte comment il a commencé à donner des ateliers d'écriture en prison. Vous avez entendu le petit enfant qui a été maltraité à l'école, qui refuse de lire jusqu'à ses 19 ans, et puis il va déserter quand il doit faire le service militaire. Il est attrapé en Corse. Et puis c'est dans une prison qu'il rencontre un type un peu étrange comme ça, qui lit dans son coin et qui lui transmet de nouveau, qui éveille de nouveau cette fièvre de la lecture qu'il avait connue avec sa maman en lisant le conte de Monte Cristo. Tous les livres de René Frény parlent de cette ambiance marseillaise, de ces truands, de ces petits malfrats, de ces délinquants qu'il a connus en prison, qu'il côtoie des fois aussi à leur sortie de prison. Il y en a un petit de ses livres que j'aime tout particulièrement qui s'appelle « Je me souviens de tous vos rêves » où il tient un petit carnet de septembre à février et il y raconte notamment l'histoire du Bleuet, une magnifique librairie à Bannon montée par Joël Gadefossé, un type parti sur les routes comme ça avec son savoir-faire de charpentier quand sa mère est morte et qui arrive à Bannon, tout près de Manosque, le pays de Giono, qui tombe en amour et qui monte petit à petit ce qui est devenu presque un château de livres. L'histoire s'est mal terminée, mais je vais vous en lire un passage quand c'était encore très joyeux. Le café de l'Union est devenu trop étroit pour contenir les chasseurs de sangliers, les joueurs de belote et les écrivains exilés. Joël aime les arbres et les fleurs autant que les livres. Il y a derrière la librairie une parcelle abandonnée encombrée de gravats, de ferrailles, de détritus engloutis sous les ronces. Le petit libraire la défriche, la nettoie, en retourne toute la terre. Il a organisé sa librairie comme sa propre maison. Il va faire surgir de ce recoin misérable le plus beau des jardins, un jardin de curé où se mêlent toutes les essences. Il va même concevoir deux jardins suspendus, un pour la lecture et la rêverie, l'autre pour le bonheur des enfants. Dans le premier, il plante des chênes verts, des oliviers, des figuiers, des palmiers, des genêts sauvages, des massifs de romarin, des rosiers rouges, jaunes, du chèvrefeuille, du jasmin, des liserons que l'on nomme ici belles de jour et surtout des bleuets. Des bleuets partout, la délicate fleur de son enfance. Il a récupéré dans ses ruines une vieille fontaine avec sa roue pour faire arriver l'eau. Il la remonte et l'installe dans un coin du jardin à côté des trois pergolas où les gens viennent s'asseoir pour lire sur des chaises et des tables de jardin en écoutant le murmure de l'eau. Ne dit-on pas de quelqu'un qui lit qu'il cultive son jardin ? Dans ce coin de paradis, Joël a installé une bibliothèque gratuite. Ceux qui ne peuvent pas acheter un livre s'installent près de la fontaine et lisent pendant des heures à l'ombre des tonnelles qui embaument des pergolas. Chaque jour, Joël Gadefossé invente sa vie. Il est resté un enfant, il croit à la vérité de ses rêves, comme Saint-Exupéry qui vit en débarquant à New York un enfant assis sur un trottoir qui contemplait deux cailloux dans un ruisseau. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda l'écrivain. « Mes bateaux, » répondit l'enfant. « Il y en a un qui brûle et l'autre vient de couler. »
Love, so long.
clôturer le Satin Bouquiniste du jour, c'était un titre de Fredo Viola qui s'intitule, c'était ça le terme que je cherchais, The Sad Song. Et toutes les chroniques du Satin Bouquiniste, vous pouvez les retrouver en podcast sur le Play RTS, bien sûr. Le départ des Carmen de Bizet par Liam Brazian Singers et les infos qui arrivent, il est 8h.